Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que le format n'est pas traditionnel. Nous avons prévu répondre aux questions qui ont été posées au courant de la semaine. Et je bénis Dieu parce que la paroisse a beaucoup d'expertise dans ces domaines. Donc, je serai accompagné par mon frère Roger, qui va me rejoindre, je crois, au moment opportun. Pour répondre aux questions, nous avons tracé 15 grandes questions qui ont été posées et nous allons avoir l'occasion de répondre à ces différentes questions pendant ces quelques moments. Alors, avant d'y arriver, nous allons ouvrir nos Bibles dans Osée chapitre 4, le verset 6. Nous lisons Osée chapitre 4, le verset 6. Ça nous dit ceci. Mon peuple est détruit par manque de quoi? Voilà. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. En fait, nous voulons dédier cette soirée d'aujourd'hui à répondre à différentes questions qui ont été posées par nos bien-aimés, frères et sœurs, après avoir suivi ces enseignements qui ont été introduits le dimanche autour du thème « Comment atteindre et maintenir l'indépendance financière dans la marche avec Dieu ?» Nous avons commencé ce séminaire par cette introduction de dimanche et nous bénissons Dieu qui a cheminé avec nous pendant la semaine et avant les derniers jours demain, et j'ai prié que Dieu nous fasse grâce d'être là demain à 6h30 parce que nous allons parler de comment nous devons gérer la bénédiction. Lorsque Dieu va nous rendre prospères, comment nous allons gérer cela? Donc c'est un sujet très important et capital parce que comme nous avons dit, il y a plusieurs qui ont eu peur de la prospérité parce qu'ils ont vu ceux qui les ont précédés, qui en ont eu et qui n'ont pas su bien se comporter. Alors c'est important aussi, lorsque nous demandons à Dieu de nous bénir, d'apprendre aussi, lorsque nous serons bénis, comment nous allons gérer cette bénédiction-là. Alors avant de passer aux questions-réponses, nous voulions insister sur ces passages de Osée 4 et 6, sur l'importance de la connaissance dans la vie d'un chrétien. C'est important pour nous qui sommes chrétiens qu'au-delà de la foi que nous avons en Dieu, nous puissions aussi ajouter quoi? La connaissance. Alors nous allons commencer par résumer la journée d'hier. Hier, nous avons parlé des étapes à suivre pour se lancer dans l'entrepreneuriat tout en marchant dans la voie de Dieu. Et nous avons vu plusieurs points qu'il fallait d'abord vaincre la peur. Et nous avons vu l'exemple du troisième serviteur dans la parabole des talents, lui qui est allé enterrer son talent. C'est dangereux si vous enterrez aussi votre talent ou si vous avez réussi un talent, mais vous êtes en déficit, vous êtes au passif. Nous avons vu qu'il faut prendre le temps d'analyser et de planifier avant de vous lancer. Et nous avons lu dans Luc 14, 28, qui nous dit que qui veut bâtir une tour doit d'abord s'asseoir et évaluer ce qu'il aura les moyens pour la finir. Nous avons vu qu'il faut racheter le temps mais en évitant la précipitation. Et nous avons beaucoup insisté que le temps, c'est cette ressource qui nous a été allouée de manière équitable. Si d'autres facteurs nous ont été alloués de manière disproportionnelle, le temps, c'est cette ressource-là que vous et moi, nous avions réussi de manière proportionnelle et équitable. Donc nous tous, nous avons 24 heures par jour. Et ça dépend de comment nous gérons cela. Il y a quelqu'un qui a posé une question à laquelle nous allons répondre sur ça, qui travaille du matin au soir, comment il va entreprendre? Nous allons répondre à ça. Nous avons vu que lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut démarrer toujours en petit format, mais en ayant une grande vision. Et nous avons lu Luc 16, 10, où nous avons vu que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes choses. C'est important de maîtriser d'abord l'élevage des deux, trois lapins avant d'en avoir combien? une centaine. Si vous commencez un élevage de lapins par 100 lapins, vous risquez de connaître une grosse perte qui va vous créer des traumatismes difficiles à gérer. Nous avons aussi vu au cinquième point qu'il faut bien structurer et bien organiser. Et nous avons vu que lorsque nous organisons bien, nous sommes aussi en bon terme, en bonne relation avec les personnes que nous servons. Nous avons vu qu'il y a plusieurs qui arrivent à détruire leur image ou leur réputation parce qu'ils ne sont pas organisés. Et nous avons vu que nous avons la technologie, le digital, l'informatisation qui peut nous aider à bien organiser et éviter ce genre d'erreurs. Nous avons ensuite vu qu'il faut se faire entourer de bonnes personnes et bien recruter de bonnes personnes qui vont nous accompagner dans l'exécution de notre projet. Mais surtout, il nous faut bien les rémunérer, bien les traiter. Et le livre de Jacques 5, 4 nous a servi de référence biblique. Septièmement, nous avons vu qu'il faut pratiquer la bonne gestion et être un bon modèle pour toute votre équipe. Donc, si nous voulons lancer un projet, c'est mieux que nous soyons un bon modèle dans la gestion. Et avant de clôturer le sujet d'hier, nous avons vu qu'il ne faut pas se déconnecter des principes chrétiens. Et nous avons vu plusieurs proverbes qui nous parlent des principes chrétiens au sujet de la justice et de ne pas se presser à gagner beaucoup, mais se contenter de gagner peu dans la voie du Seigneur. Nous avons vu cela dans Proverbe 13, 11, Proverbe 15, 16 et Proverbe 16, 18. Et nous avons vu avant le dernier point d'hier, il faut bien calculer ses bénéfices pour payer convenablement la dîme. Nous avons réalisé que plusieurs chrétiens ne payent pas bien la dîme parce qu'ils ne savent pas combien ils gagnent. Donc c'est important que nous chrétiens, lorsque nous développons une activité, nous puissions bien calculer combien nous gagnons et que cela nous permette de payer correctement la dîme que nous devons à Dieu. Et pour terminer, nous avons vu qu'il faut savoir gérer la prospérité en ne s'éloignant pas de la voie du Seigneur. Et c'est le sujet que nous allons développer demain matin. Demain matin, venons nombreux pour encore recevoir ce que Dieu va nous réserver par rapport à ces sujets. Comment gérer la prospérité sans s'éloigner de la voie du Seigneur? Parce qu'il est devenu courant que lorsqu'un chrétien est béni, il se déconnecte de la voie du Seigneur. Et nous avons même vu qu'il y a certaines épouses qui ont changé de prière. Au lieu de prier que Dieu bénisse leurs époux, elles prient que Dieu s'arrête par là pour que les époux soient stables à la maison. Parce que certains, dès qu'ils ont l'argent, en soi, ils l'ont dit que hakamatike. Donc, on perd les contrôles. Alors que Dieu nous aide à être là demain nombreux pour clôturer ce séminaire qui sera achevé par les cultes dominicales en service anglophone comme francophone. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons pour encourager les serviteurs de Dieu. Et pendant ce temps, nous invitons aussi Papa Roger. Nous pouvons l'encourager pendant qu'il s'approche. Papa Roger sera aux côtés de Papa Joël pour l'assister pendant qu'on sera en train de répondre aux questions. Bon après-midi encore une fois.
Ah, bon après-midi. Merci beaucoup, Papa Étienne Ramazani.
Ah, oui. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un ici qui ne vous connaît pas bien. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter brièvement?
Oh, je n'aime pas parler de moi. Oui, moi, c'est Joël Tembo. Vous verrez, je suis enfant de cette église. Donc, Dieu m'a fait grâce de grandir dans cette église. Et je suis entrepreneur. Et je suis beaucoup passionné de l'entrepreneuriat. Et lorsque on me demande c'est quoi ton ministère, je dis que mon ministère c'est l'entrepreneuriat. Parce que Dieu m'utilise par cette voie pour que ceux qui veulent s'y engager trouvent un bon accompagnement. Et donc c'est ça le ministère dans lequel je suis plus impliqué. Mais aussi dans l'église, j'anime aussi un ministère d'enseignement des fiancés sur la gestion économique de la famille, donc l'économie familiale. Et nous conseillons aussi beaucoup de familles sur les questions liées à l'économie, à l'entrepreneuriat. Mais si je dois retourner en arrière, Dieu m'a fait grâce de commencer depuis mon adolescence. Et depuis lors, je n'ai jamais été fatigué. Et je peux dire que c'est bon d'être entrepreneur. Et on peut être entrepreneur tout en faisant aussi autre chose. On peut être employeur en étant entrepreneur. Et je peux vraiment vous rassurer que c'est bon d'être entrepreneur. C'est vrai, c'est difficile au début, mais lorsque ça marche, c'est bon. Et j'ai prié le bon Dieu qu'il nous aide aussi à nous engager dans la même voie et qu'il nous accorde les bonnes conditions pour réussir. Merci.
Merci beaucoup, Papa Joël. Vous êtes en train d'animer, en fait, ce séminaire depuis dimanche. Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif, brièvement?
Ah, merci beaucoup. Il faut dire que lorsque nous discutions de ces séminaires avec la hiérarchie de l'Église, donc le collège des pasteurs, je vois les pasteurs sont là, donc ils sont témoins. Je vois pasteur Festo est là.
Ouais.
J'ai vu pasteur Badessir quelque part, il est là. Pasteur Daniel aussi, il est là. Donc ça n'a pas été facile d'abord de définir les thèmes par rapport à la paroisse. Mais Dieu nous a inspirés avec les hommes de Dieu, on est arrivé à ces thèmes. Et par ces thèmes d'indépendance financière, beaucoup se posaient la question, de quoi on va parler? Alors, ce qui brûlait en moi, c'était que Dieu nous ouvre les oreilles. Et que Dieu nous ouvre les yeux par rapport à ces thèmes. Pourquoi? Parce que ce que nous manquons, c'est l'indépendance financière. Lorsque vous croisez les gens, ça nous ronge beaucoup. J'étais en train de lire un article qui m'a trop choqué, que près de 20% des Congolais seraient des malades mentaux.
20%.
Près de 20%. Donc la RDC aurait entre 15 et 20 millions de malades mentaux. Et quand vous entrez au fond de ce qui cause ces traumatismes, ce sont des questions de manque d'équilibre sur les plans économiques et financiers. Nous avons aujourd'hui plusieurs familles qui sont brisées à cause de ces questions. Et même l'Église, vous avez suivi, nous sommes ici plus de 500 paroissiens. Pour que notre Église arrive à construire une maison pastorale, vous imaginez combien de communiqués, d'annonces, de motivations, de messages. Alors que facilement, 5-10 chrétiens pouvaient dire « Ok, le devis est de combien? 200 000. Ok, je donne chacun 20 000, 10 chrétiens, et la maison est construite. » J'aime ce que mon frère Bukundika avait dit, que d'ailleurs, il devait même être avec nous. Je ne sais pas comment vous n'êtes pas avec nous. Vous devez être avec nous.
Je crois qu'il aura l'occasion qu'on a besoin de son intervention.
Papa Bukundika avait dit ceci, que le fait que nous réunissons autant de fois pour organiser un mariage, où on a besoin juste de 2 ou 3 vaches, que ça reflète que nous avons la pauvreté, parce qu'hier nous avons suivi ce que Jacob a eu comme richesse après avoir quitté Laban. Pour organiser un mariage, on a besoin peut-être de 2 ou 3 vaches. On fait combien de réunions?
Beaucoup de réunions.
Beaucoup de réunions, autant de gens qui se tiraillent.
On va secouer
juste pour organiser une petite cérémonie. Donc Abraham, lui, pouvait décider d'organiser un barbecue avec toute une vache pour quelques visiteurs, pour 3 personnes, une vache, Abraham.
Merci, Papa Joël.
Alors, donc, j'ai pris que Dieu, ce qui brûle dans mon cœur, excusez, je clôture, c'est que Dieu nous aide vraiment à arriver à ce soulagement d'être financièrement indépendant. Et la grande question, ce n'est pas d'y arriver, mais surtout comment les maintenir. Comment je maintiens l'indépendance financière et comment je les perpétue de génération à génération. Parce que c'est aussi un autre thème qu'on doit aussi animer dans le kit. C'est dans le kit vraiment de papa. Comment je perpétue mon indépendance financière aux générations qui viennent après moi. C'est aussi un autre défi. Il ne faut pas que l'indépendance financière se limite à moi, mais que je sois à mesure de les perpétuer aussi à d'autres générations. Merci.
Merci beaucoup. Nous avons la grâce d'avoir quelqu'un qui peut nous parler de l'indépendance financière. Est-ce que vous êtes fier de l'avoir parmi nous? Merci beaucoup. Nous l'encourageons. Papa Roger, un mot sur vous-même. Nous profitons de l'occasion pour accueillir nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Peut-être qu'il y a parmi nous aussi ceux qui ne vous connaissent pas. Juste un petit mot sur vous-même. Merci. Est-ce qu'on peut encourager Papa Roger? Donc, en face de nous, nous avons des experts. Ce ne sont pas des personnes qui commencent aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont l'expérience. Donc, nous avons toutes les chances de profiter de leur expérience. Voici la première question. Un auditeur a suivi les enseignements. Il a constaté que vous aviez dit qu'il faut placer Dieu au devant de tout. Alors, il pose la question de savoir, quel conseil donneriez-vous aux frères et sœurs qui ont commencé l'entreprise sans Dieu? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et ils ont commencé sans Dieu. Est-ce que vous avez un mot à leur dire parce que vous insistiez qu'il faut y aller avec Dieu?
Oui, si vous vous rendez compte que Dieu vous a révélé à travers cet enseignement que ce que vous aviez entrepris, vous n'aviez pas marché avec lui. D'abord, notons que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Donc, la chose que nous devons faire, c'est de nous repentir, demander à Dieu de nous sanctifier, de nous purifier, de nous pardonner et nous engager à partir d'un nouveau départ. Nous avons un Dieu miséricordieux. Et notre Dieu étant miséricordieux, le pardon qu'il nous accorde ne dépend pas de la lourdeur de ce que nous avions fait. Mais ça dépend de la sincérité avec laquelle nous l'approchons et de l'attitude de reconnaissance que nous n'avons pas été dignes. Nous demandons à Dieu de nous pardonner et nous voulons commencer un nouveau départ. Ce que je demanderais, c'est de ne pas vous déranger, c'est de venir dire, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas bien fait, pardonne-moi et donne-moi la force de commencer par un nouveau départ. Et je suis convaincu que Dieu va vous y accompagner.
Oui, alors Papa Joël, quand on entre à fond dans la question, je m'imagine, je sous-attends, ce n'est pas moi qui ai posé la question, mais je me dis que peut-être que cet entrepreneur qui a commencé sans Dieu, il prospère bien. Est-ce que réellement il a besoin de Dieu? Oui. Ensuite, ça peut arriver qu'il a commencé dans une entreprise qui ne cadre pas avec les affaires de l'Église. Il est dans un domaine où vous dites ça non. Il vend par exemple des boissons alcooliques, il vend les cigarettes, il vend des marchandises que l'Église considère comme n'étant pas une marchandise qu'un chrétien peut faire. Qu'est-ce que vous pouvez encourager à une telle personne, un tel entrepreneur qui a commencé sans Dieu, il y est et il prospère? Est-ce qu'il a besoin de Dieu? Est-ce qu'il faut continuer dans ces histoires que vous, l'Église, vous interdisez et où il gagne beaucoup d'argent?
Oui, merci. D'abord, je vais dire ceci, que lorsque nous parlons d'entreprendre avec Dieu, nous avons tiré cela dans plusieurs passages bibliques, notamment Psaume 127. C'est à vain ceux qui bâtissent, sans qui? Sans l'Éternel. En fait, je connais qui ont amassé des millions et qui ont connu la chute brisque. Votre réussite ne dépend pas de ce que vous avez déjà amassé aujourd'hui. Vous pouvez avoir amassé un million et une catastrophe arrive et tout est ravagé. Et si vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes engagé dans l'entrepreneuriat, dans une voie qui ne plaît pas en Dieu, moi, ce que je recommanderais, c'est de solder votre activité. Si Dieu vous convainc que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça ne lui plaît pas, c'est de solder votre activité et de vous investir dans une voie où le Seigneur vous rassure que vous êtes dans la bonne voie. Parce que c'est pas le pasteur ne va pas aller faire la police de chaque chrétien. Le pasteur ne viendra pas faire la police de ce que je fais. Mais c'est à moi d'avoir l'assurance que ce que je suis en train de faire, je suis dans la voie du Seigneur. Moi, il m'est arrivé de refuser des opportunités. Lorsque j'ai par exemple une opportunité où on me dit, on est en train de clôturer un projet et il y a encore un budget de X montant et qu'on me propose de soumettre une demande, de postuler pour que je sois recruté comme consultant. Je ne vais pas travailler, mais l'argent va sortir et puis on va se partager. J'ai une opportunité comme ça et j'ai dit, comme chrétien, ça ne fait quoi?
passe pas.
Ça ne passe pas. Et des fois, ça arrive quand vous êtes en crise. C'est les moments que vous êtes en besoin, que vous avez ce genre d'opportunité. Vous êtes dans le domaine médical et un enfant d'un ministre vient vous proposer un avortement et vous propose un cachet de 10 000 dollars. Et c'est le moment où vous êtes en situation financière difficile. Vous avez une école privée et un parent ministre vous propose de faire un bulletin, un faux bulletin pour son enfant. Ces exemples sont dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous avez ces exemples-là. Moi, j'ai vu même des électroniciens, on vous amène un appareil. Je me souviens un jour, j'ai travaillé à l'ordinateur et l'écran de mon ordinateur s'est inversé. Alors, j'ai paniqué au départ, mais il fallait juste toucher sur une touche pour inverser l'écran. Il y a des techniciens comme ça, quand vous venez, ils vous disent, la panne, elle est complexe. Il a vu qu'il doit juste toucher et l'écran va revenir à la normale. Mais il dit, ce monsieur a beaucoup d'argent. Laissez-moi l'occasion d'en bouffer un peu. Il va vous dire, la panne est complexe et revenez après 2 heures de temps. Et juste, vous tournez le dos, il fait ça et il sourit. Et il vous demande 20 dollars. Donc, vous voyez que ces exemples sont dans... Ça touche tout le domaine. Mais ce qui est important, c'est de vous rassurer que vous êtes dans la voie du Seigneur. Et si Dieu vous révèle que vous ne l'êtes pas, comme nous avons dit, vous vous repentissez et vous prenez la décision de faire un nouveau départ. Voilà. Si Roger a ajouté, il peut...
Oui. Bon.
Merci.
Deuxième question. Celui-ci a posé la question de savoir... Il dit, les frères ont offensé leurs employés et cela les a poussés à faire des prières... à ce que l'entreprise soit détruite. Qu'est-ce que l'employeur doit faire pour ses employés? Faudra-t-il payer ou rembourser les employés? À l'exemple de Zachée de la Bible, qui a volé les gens et il s'est converti, il s'est dit non. C'est lui à qui j'ai volé, qu'il vienne, je lui remets. Alors, des gens ont été volés de cette façon. Alors, celui-ci veut savoir qu'est-ce que l'employeur doit faire pour ses employés.
Ah, c'est délicat. Lorsque je médite souvent sur ces passages où on nous parle des achats, je me dis, si on me demandait de réparer les torts que j'ai commis depuis que j'ai commencé, est-ce que c'est possible? Je pense que Zachée avait une grâce particulière. Je me dis, par quelle voie il a fait? Parce que souvent, ce qu'on reçoit, on a aussi des dépenses. Comment il avait réussi à avoir une balance positive, à dédommager tous ceux à qui il a commis du tort. Parce que même les compagnies d'assurance, si tout le monde commet un accident, au même moment, ils sont déséquilibrés, ils ne savent pas. Bon, je pense que c'était une situation particulière pour Zachée, mais ce n'est pas évident que quelqu'un d'autre qui est dans cette situation-là soit à mesure de rembourser 2 fois, et puis la rembourser 2 fois. Alors, ce que moi je dirais par rapport à ça, en fait, le pardon ne dépend pas même du geste matériel. Mais le pardon dépend de quoi? De la sincérité. Peut-être un petit geste. Peut-être un repas avec votre équipe. Dites, voilà, je demande pardon, je me répands. Et je vous prie de me pardonner. Désormais, les choses ont changé parce que Dieu m'a révélé ceci. Vous savez, la plus grande chose, ce n'est même pas les moyens que vous allez déployer. Mais le grand défi, c'est cette humilité. Combien ont le courage de se rabaisser et demander pardon aux gens qui vous sont inférieurs. Moi, je crois que c'est la chose la plus importante, parce qu'il n'est pas évident que ce que Zachée a fait, que quelqu'un d'autre soit à mesure de le faire. Je pense que Zachée, son argent, je m'imagine qu'il investissait dans des activités qui généraient beaucoup. C'est comme ça qu'il avait la capacité de rembourser le double. Voilà.
Merci.
Si Roger a un complément, il pourra ajouter.
Ok, merci beaucoup. Par rapport à cette question-là, je crois qu'il y a 2 éléments qu'il faut souligner. Le premier, c'est que d'abord, l'employeur qui n'a pas été à mesure de payer ou soit de satisfaire à ses employés, c'est déjà le premier élément de tort. Mais aussi les employés qui se permettent de commencer à prier pour que l'entreprise disparaisse. Je crois que ça, c'est aussi notre mauvaise attitude des employés. Et du coup, les torts sont presque partagés à ce stade-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas vraiment, nous devons faire attention par rapport à la gestion du personnel ou bien à la gestion de nos équipes, des équipes qui nous accompagnent. Pourquoi? Puisque, bon, d'une façon générale, les agents dans les entreprises, et ils ne voient que presque leur traitement, leur salaire. Ils ignorent que les entreprises sont confrontées à beaucoup d'autres difficultés, notamment par exemple les matières premières, notamment par exemple les fiscs, notamment les problèmes par exemple de dédouanement et tout et tout. Ça peut arriver par exemple que les employés puissent faire une mauvaise appréciation d'une situation. Et du coup, ils pensent qu'on les a volés ou bien soit on ne les a pas bien traités, alors que dans la réalité, l'entreprise n'est pas à même de supporter ou bien soit de les satisfaire. Et à ce stade-là, cette mauvaise appréciation fait que quelquefois, les employés commencent même à se comporter ou soit à dire des choses qui ne sont pas bonnes par rapport à l'entreprise. Puisque il faut savoir une chose, c'est que dans la vie d'une façon générale, c'est que il y a la cartographie donc de la société. Les gens qui émergent généralement, ce sont les entrepreneurs. Là, je suis en train de revenir un peu en arrière pour dire que ceux qui deviennent normalement des riches, ce sont des entrepreneurs. Il est difficile de voir un agent devenir très très riche, c'est difficile. Alors, un entrepreneur qui a commencé son activité à un certain niveau, si par exemple l'activité ne marche pas, il peut devenir un employé. Par contre, pour les employés, si je suis un employé, il faut que je sois en mesure de savoir que je suis à côté des mendiants, puisque normalement, quelqu'un qui a un contrat, si le contrat est rompu directement, après quelques mois, vous allez voir qu'il va commencer à, s'il n'a pas trouvé du travail et s'il n'a pas une autre activité, directement il va devenir un mendiant d'une façon ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, les agents dans les entreprises, ils pensent que, bien que les entreprises doivent fournir un effort, bien soit les employeurs doivent fournir un effort, mais lorsque les employés ne savent pas s'approprier l'entreprise, il sera difficile qu'ils puissent bien se maintenir dans l'entreprise. Raison pour laquelle il y a quelquefois des départs, soit des démissions. Voilà, merci beaucoup.
Merci pour la question. Je prends directement la 12e question qui a quelques rapports avec celle-ci. La 12e. Le chrétien qui subit l'injustice de son boss dans le paiement des salaires, finalement, il se paye lui-même à travers les magouilles. Peut retirer $5 dans le business de son boss chaque jour. Est-ce qu'il fait le vol?
Ouais, je pense que la réponse est claire. Donc, si par exemple vous faites les travaux de ménage quelque part et vous voyez qu'il est tellement patron, il a un dépôt, il y a 10 sacs de riz, 10 sacs de farine, il y a des cartons de sardines, il y a ceci, il y en a qui ont eu cette opportunité-là. Donc vous travaillez chez une personne qui est nantie et qui a ça, mais la personne ne vous paye pas bien. Elle vous paye, par exemple, $50 et a des sacs de braise et que vous n'êtes pas contrôlé à la sortie, vous commencez chaque fois à... Alors, quand vous voulez quitter aujourd'hui, vous prenez un morongo de haricots, vous mettez dans votre sac à main, demain, 1 kilo de sucre. Alors, le jour que la personne a la curiosité de vérifier votre sac à main, comment vous vous sentirez? Est-ce que vous vous sentirez vraiment intact? Vous êtes humilié, non ridiculisé. Alors, c'est du vol, en fait. C'est du vol. Mieux vaut dire à cette personne-là que vous me payez ces montants, mais je ne sais pas comment m'en sortir parce que j'ai ces dépenses de loyer, j'ai ça. Mais aussi, je réalise quand même que l'entreprise est en train de faire rentrer beaucoup d'argent. Moi, il m'est arrivé que nous faisions ce qu'on appelle la discussion, la négociation salariale. Je sais que ça vous est arrivé plusieurs fois, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous avez un syndicat. Lorsque le syndicat dit non, nous pensons que vous devez payer autant parce que vous faites entrer ça. Ce qui est important ici, je crois, c'est de vous rassurer que ce que vous faites, seul, si vous le dévoilez, ce n'est pas aussi mauvais. En fait, être chrétien, c'est quoi? J'ai toujours dit qu'être chrétien, c'est lorsque ce que tu fais à cachette, c'est ce que tu peux aussi dévoiler. Mais lorsque dans ta vie chrétienne, il y a des choses que tu peux faire en cachette, je pense que ce n'est pas, c'est pas digne. Et je reviens aussi sur un autre exemple. Si vous êtes marié et que vous le faites, est-ce que vous avez le courage de dire ça à votre femme? Que, vous savez, les $5 là que j'apporte chaque jour, on ne me le donne pas. Je prends à l'insu du patron. Je ne pense pas que votre femme sera bénie. Ou si vos enfants à l'école de dimanche, on les apprend qu'il ne faut pas voler et que les enfants aussi apprennent ça. Je pense que les enfants aussi seront choqués. Donc, c'est en fait, c'est du vol. Et si c'est le cas, je pense qu'il faut aussi se repentir. Être sincère avec votre employeur, lui dire lui que vraiment ce que vous me donnez ne me permet pas de vivre. Et ça risque de me mettre à l'épreuve. Oh, je ne peux pas voler. Je pense qu'il peut écouter.
Alors, à un chrétien comme celui-là, vous pouvez aussi encourager de démissionner. Il trouve qu'il est tenté à faire ça et que son employeur n'est pas en mesure d'améliorer sa condition.
Je donne la parole à Roger. Il va compléter.
Oui, bon, je crois que généralement, quand on cherche le travail, bon, on n'est pas trop exigeant. Généralement, on n'est pas trop exigeant. Et quand on entre maintenant dans la vie courante ou bien dans l'entreprise, à ce moment-là, après un certain temps, les agents commencent à devenir un peu exigeants par rapport au salaire. Mais au début, quand on cherchait le travail, généralement on dit non, même un travail de $100, je vais accepter. Même un travail de $50, je vais accepter. Oui. Mais au fur et à mesure qu'on avance, à ce moment-là, les besoins, il faut savoir que les besoins sont illimités. Et même si vous avez, la fois passée, j'avais vu quelqu'un qui touchait un salaire de $25,000 qui avait démissionné. Il avait démissionné parce qu'il disait que le salaire était insuffisant. Et celui qui était son subalterne, il touchait 2500. Donc, comme lui, il était expatrié et son adjoint, c'était congolais, lui, il touchait 2500. Les deux ont démissionné puisque à cause des salaires. Donc, pour vous montrer que le salaire n'a jamais été satisfaisant par rapport à nos besoins. Donc, pour dire que si vous entrez dans une entreprise, vous commencez le travail et que vous voyez que vous n'êtes pas satisfait, mieux vaut démissionner que de rester en train de faire, de pratiquer des choses qui ne sont pas correctes. Puisqu'à un moment donné, on peut même vous arrêter, même vous mettre à prison. Voilà, merci beaucoup.
Merci pour la réponse. Troisième, la question suivante. Je suis le seul responsable de la famille et j'ai un revenu périodique très petit. Que faut-il faire pour épargner une certaine somme? Et y a-t-il les moyens de s'investir dans quelque chose?
Ok, merci. En fait, l'épargne ne dépend pas de ce que vous gagnez. L'épargne, c'est d'abord une décision. Les économistes, les financiers définissent l'épargne comme la différence entre les revenus et la consommation. Donc, épargne égale revenu moins consommation. Ça, c'est la définition mathématique de l'épargne. Mais j'ai toujours dit que cette définition, elle s'applique difficilement à nous. Comme Papa Roger vient de le dire, nos consommations sont illimitées. Alors, lorsque vous dites que je vais épargner après avoir satisfait à mes consommations, vous n'épargnerez jamais. Alors moi, quand j'enseigne l'éducation financière, je dis que l'épargne dans notre contexte doit être isolée. Donc, quand vous gagnez de l'argent, isolez déjà l'épargne. Et nous avions dit ici que nous avons 4 types d'épargne. Nous avons l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est l'épargne, l'argent dont on ne sait jamais que vous devez avoir en poche. Nous avons l'épargne de sécurité. C'est l'épargne que vous avez pour subvenir à un imprévu qui peut arriver, un imprévu majeur. Nous avons l'épargne dédiée pour un investissement ou un projet donné. Et nous avons enfin l'épargne pour la retraite. Maintenant, celui qui pose la question, lui, il n'a même pas touché les 4. Donc, pour lui, on n'épargne rien. C'est dangereux si on n'épargne rien parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Donc, même si vous gagnez $10, isolez d'abord $1 et ajustez vos besoins aux $9 qui va rester. Pas 9. Vous gagnez 10, d'abord la dîme va aller à côté. Il reste combien? 9. Encore, restez 8, maintenant planifiez pour le 8. Et si vous vous y exercez, vous verrez que c'est possible. Et chaque fois que vous avez de l'argent, évitez d'en toucher même un centime avant d'aller faire votre planification de l'utilisation. Parce que même si on vous donne 1 000 $, on vous amène à go marché, vous dit, vous n'allez pas, ça va s'épuiser avec un petit panier. Merci.
Merci beaucoup. Le suivant demande si, par exemple, il a une idée ou un projet, est-ce qu'il peut venir vous en parler? Serez-vous disponible? Il a une idée ou un projet, il voudrait qu'il puisse encore vous voir. Est-ce que vous serez disponible à le recevoir?
Je pense que moi et Roger, nous sommes disponibles. Et je vais te laisser ajouter.
Oui, voilà. Oui, pas de soucis. Vous avez répondu. Que dites-vous de la crypto-monnaie? Je crois que, est-ce que l'assistance, vous avez déjà entendu parler de ce terme crypto-monnaie? Vous pouvez vous manifester parce que c'est... Ah, ok, voilà. Je crois que vous allez
bon, nous enrichir. En fait, la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie électronique. Donc, ce sont des algorithmes, en fait. On vous dit, vous pouvez placer 1 $, après ça devient autant.
Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat maintenant?
Moi, je ne pense pas, ce n'est pas l'entrepreneuriat. La crypto-monnaie serait comme mettre l'argent dans un compte bloqué. Puis vous attendez que ça génère des intérêts. Mais ces intérêts sont souvent trop mineurs. Actuellement, les banques vous proposent 6% l'an. Donc, si vous mettez 1 000 $, on va vous donner combien à la fin de l'année? 60 $. Alors que les premiers serviteurs dans la Matthieu 25, ils avaient multiplié par 2. Il y a des activités qui peuvent vous multiplier par 2. En fait, la crypto-monnaie n'est pas encore d'abord légalisée en RDC. Notre banque centrale ne la reconnaît pas encore. Donc déjà, en RDC, la crypto-monnaie n'est pas encore formelle. Et celui qui veut s'y lancer, je veux qu'il prenne le temps d'abord de comprendre en suffisance. Personnellement, je n'y pense même pas. Parce que déjà, nous manquons les œufs, nous manquons la viande des poules, nous manquons les chèvres. Pourquoi vous allez aller à la crypto-monnaie? Alors qu'il y a beaucoup de besoins fondamentaux qui ne sont pas encore satisfaits. Moi, je ne vois pas les bien fondés des Congolais d'aller investir la crypto-monnaie, alors que nous avons encore beaucoup d'options d'entreprendre. J'ai dit dans les enseignements que ceux qui sont en Occident, pour eux, c'est difficile d'être entrepreneur, parce que tout est presque déjà fait. Donc, pour entreprendre, il faut chercher à corriger ce qui est mal fait. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'ils ont aussi pensé à la crypto-monnaie. Ce qui a fait la crypto-monnaie voulait aussi contourner la monnaie papier, la monnaie traditionnelle. Mais ça demande beaucoup pour que ça soit vraiment, un système formel généralisé. Parce que certains pays n'ont pas encore adhéré comme la RDC. Donc pour moi, je n'encourage pas. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs autres options. Alors, si vous avez autant d'argent, vous avez épuisé toutes les autres options, prenez alors le courage de faire des analyses, d'évaluation sur ça, et il faut vous rassurer que vous avez trouvé un expert qui va vous donner toutes les informations qu'il faut au sujet de la crypto-monnaie. Merci.
Merci. Alors, le problème, c'est que ça vient souvent avec de grands marketeurs, et encore, souvent, ils passent par vos amis. Et c'est là que beaucoup de gens sont influencés. Et il commence quelque chose sans comprendre si c'est vraiment important d'y aller parce qu'il a été influencé par un ami.
Peut-être que je vais anticiper parce que j'ai vu aussi qu'il y avait une question sur les paris foot.
Oui. Je pourrais anticiper. Justement là où nous allons, c'est la question est intitulée « Que dites-vous? Encouragez-vous les jeux de probabilité comme le paris foot? »
D'abord.
Dans l'assistance ici, il doit y avoir beaucoup de gens qui font ça. Je pense que je ne me trompe pas. Et donc, c'est une question très capitale. On voudrait vous écouter. Oui.
Je n'en ai pas parlé dans les enseignements, mais j'en parle souvent. La Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Genèse 2,15, nous parle de cultiver et garder. Je ne pense pas qu'un chrétien peut rêver gagner sa vie par les hasards. Et laisse-moi vous révéler que ceux qui ont fait les paris foot ou ceux qui font les tombolas, ils ont déjà fait des algorithmes pour gagner. Ils ont des logiciels qui calculent. Lorsque, par exemple, vous allez parier pour tel match, et ils ont déjà calculé des probabilités pour que c'est eux qui vont gagner de l'argent. Et c'est eux qui gagnent toujours. Donc, si vous êtes 1 000 personnes qui vont parier avec 1 000 francs, ça va faire combien? un million. Il a déjà calculé qu'il va peut-être vous retourner seulement 100 000. Il va garder combien? 900 000. Et faites un sondage sur 100 personnes qui parient, combien réussissent? Ça peut être 1 sur 100. Si c'est beaucoup, c'est combien? 10 sur 100. Donc, ils ont déjà fait des... En fait, dans un pays sous-développé, on ne devrait même pas accepter ça. En fait, les jeux de loterie, ce sont des jeux pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Et on doit mettre de l'argent dont on n'en a plus besoin. Donc, même si ça se perd... Donc, c'est de l'argent que je jette. Maintenant, nous, nous avons de la peine à pouvoir aux besoins primaires, aux besoins fondamentaux. Mais pourquoi je vais mettre maintenant mon argent dans les jeux de hasard? La réponse est qu'un chrétien ne devrait pas faire ça. Et si vous voulez, vous avez de l'argent qui n'a plus à faire, nous les chrétiens, nous avons l'option d'aller donner l'aumône aux pauvres. Lorsque je me retrouverai avec de l'argent dont je n'en ai plus besoin, je n'irai pas dans les casinos, je n'irai pas non plus faire des jeux de hasard, mais j'irai donner aux pauvres de l'aumône. Oui, si Roger a un ajout.
Bon, oui, je crois que vous avez presque tout dit. En fait, le problème de probabilité, pour la plupart des cas, d'abord, ça se fait à cachette. Pour la plupart des cas, ça se fait à cachette. Vous allez voir, par exemple, une maman, on l'a donné l'argent des rations. Elle va, au lieu d'aller au marché, elle fait des tombolas et tout et tout. Et après ça, elle rentre, il n'y a rien. Donc, et ça commence à créer des problèmes au sein du foyer. Et quand on demande comment c'était passé, c'est maintenant qu'on va découvrir qu'il y a eu ceci ou cela. Donc, je crois qu'en tant que chrétien, puisque nous sommes quand même appelés à être un peu honnêtes et aussi gérer les risques. Puisque quand je place mon argent dans une activité de loterie, il faut savoir déjà que je prends un grand risque. Je prends déjà un grand risque auquel je ne saurais pas peut-être m'en sortir. Voilà, merci beaucoup.
Merci. La question suivante, vous avez dit que nous devons maximiser les moments après le service pour entreprendre. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, dit comment un fonctionnaire qui travaille de 8h à 17h peut avoir le temps de travailler dans les conditions où il y a la sécurité dans notre ville? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil?
Ok, merci beaucoup. En fait, il y a des activités qui sont compatibles à notre disponibilité. Et nous avons vu pendant la semaine qu'il y a plusieurs options si nous voulons entreprendre. Je donne un exemple. Si vous travaillez de 8h à 17h, vous pouvez faire les potagers. Et le bon moment pour faire les potagers, c'est en 5h le matin et tard le soir. C'est le moment d'encercler, d'arroser et qu'on sort. Donc, il y a plein d'options. Vous pouvez faire une activité d'élevage. Tout comme vous pouvez faire la pâtisserie et la nuit, vous préparez des beignets. Le matin, vous allez les livrer. Je connais quelqu'un qui a construit une grande maison. Il faisait seulement ça. Il faisait des beignets la nuit. Et le matin, il faisait des petits bassins, des bassins avec des jeunes garçons qui allaient distribuer. Vous pouvez faire des galettes la nuit et aller vendre dans les écoles. Vous pouvez faire des pop-corn. Vous pouvez faire beaucoup la nuit. Il y a plein de choses qu'on peut faire la nuit et aller distribuer le matin. Et donc, si vous... Et je ne dis pas que vous allez faire des nuits blanches. Ça peut être que vous faites votre pâtisserie, donc vous faites les beignets, des bons beignets, soit vous vous réveillez à 3 heures, vous le faites des 3 heures à 6 heures, et après vous allez au boulot, mais vous avez déjà fait une production, peut-être qui vous génère 5-10 dollars par jour. J'en connais qui le font, il touche à son travail 200 dollars, mais il gagne 300 dollars dans l'entrepreneuriat. Et chaque fois qu'il reçoit les 200, ce n'est pas pour consommer, mais c'est pour aller acheter des intrants des sacs de farine et consorts. Et pour les mamans, si vous n'avez pas encore commencé, la pâtisserie, c'est une des options. Des fois, même nos enfants, les dimanches ici, il arrive que j'aille là-bas, on ne trouve pas qu'est-ce qu'on peut acheter aux enfants. On ne dit pas que ce sera l'église, votre marché, mais il y a des écoles, il y a des carrefours où les gens sont prêts à acheter. Merci.
Merci. Je trouve que c'est facile de le faire lorsqu'on le fait chez soi.
Ouais.
Peut-être, s'il faut se déplacer, c'est là où ça sera un peu compliqué. Mais... Vous avez ajouté?
Oui, bon, par rapport au timing, je crois que notre manque de moyens aussi, ça s'explique par le fait que nous vivons comme si nous sommes un peu satisfaits, alors que nous devons travailler beaucoup. Puisque travailler les 8 heures là, donc de 8 heures à 17 heures, Ça, c'est l'état normal pour quelqu'un qui est déjà normalement un peu stable. Mais nous qui n'avons pas assez de moyens, nous ne pouvons pas quand même donner le luxe de commencer à voir même des samedis, on ne travaille pas, même les dimanches, on ne travaille pas. Si on voit comment les gens travaillent en Europe, je crois que ça peut nous inspirer. Il y a des gens qui peuvent avoir même 3 contrats qu'ils gèrent par jour pendant une seule journée. Donc, ils travaillent ici 3 heures dans une autre entreprise, 4 heures dans une autre entreprise, 5 heures, et il arrive chez lui peut-être autour de 0 heures. À ce moment-là, et encore à 5 heures, il va commencer. Et puis nous disons que, bon alors, nous sommes là maintenant pour commencer à commander. Nous ne savons pas comment il travaille. Il travaille durement pour gagner ce qu'il gagne, pour que nous, maintenant, aujourd'hui, nous puissions commencer à demander, oh non, envoyez-nous. Mais si vous êtes en Europe, vous allez voir, c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans les villes, dans les grandes villes, la vie est trop pressée. Elle est trop pressée par rapport aux engagements. Si vous ne travaillez pas, alors il ne faut pas espérer que vous allez gagner beaucoup. Donc notre pauvreté s'explique aussi par le fait que nous ne sommes pas suffisamment engagés pour le travail. Voilà, c'est ce que je voulais peut-être ajouter.
Merci. Voilà, question suivante. J'ai un projet de fabrication de pavés en plastique et en sable. Alors, je n'ai pas de fonds pour acheter la machine. Maintenant, que ferais-je? Il a un beau projet, il n'a pas de fonds.
Bon, je crois que pour l'entrepreneuriat, là, je crois qu'il faut quand même qu'on se mette d'accord. D'abord, l'entrepreneuriat commence effectivement par les idées. C'est ça le nez de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui n'a pas d'idée, il est difficile de commencer quelque chose. Lorsque vous avez une panoplie d'idées, c'est à ce moment-là que vous pouvez maintenant analyser chaque idée pour voir, pour cette idée, qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que j'ai la possibilité de commencer cette activité ou pas. Alors, les moyens ou bien les fonds, puisque ça, c'est la raison que tout le monde évoque, pour dire que bon, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas ceci. Il faut savoir que l'entrepreneuriat a plusieurs sources de financement. Parmi les sources de financement de l'entrepreneuriat, d'abord, il est normalement souhaitable qu'on commence une activité avec ses fonds propres. C'est ce qui est souhaitable, puisque entreprendre, c'est déjà un risque. C'est déjà un risque. Si vous commencez maintenant, vous commencez une activité avec un emprunt, la probabilité que l'activité ne tourne pas correctement est là, et à ce moment-là, ça risque de vous créer des problèmes. Alors, si j'ai une idée, par exemple, et je projette commencer une activité un jour, et que je n'ai pas de moyens, l'autre façon de faire, c'est de me faire engager quelque part. Je cherche d'abord du travail, je gagne un peu d'argent, je travaille avec une vision de commencer mon activité. Lorsque je vais atteindre les montants, je vais quitter mon patron pour aller commencer mon activité. Ça, c'est la deuxième façon de financer une activité. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir de l'argent auprès, par exemple, il y a ceux qui ont il y a par exemple les familiers qui peuvent vous aider. Il y a des gens, par exemple, vous pouvez dire, bon, on vous donne $200 ou $300 ou $400. Il y a des gens qui bénéficient des dons familiaux. Et à travers ces dons-là, ils peuvent commencer. Donc, les problèmes de fonds ou bien de l'argent, de financement de l'activité, ça, ce n'est pas ça le premier élément qu'on doit mettre en avant plat, puisque ça bloque beaucoup l'entrepreneuriat. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de l'argent avec lequel ils peuvent commencer une activité. Mais comme ils n'ont aucune idée, ils n'ont projeté, ils n'ont organisé, soit projeté quoi que ce soit, et dans l'avenir, ils ne font rien. Alors qu'ils ont gagné peut-être $1,000, ils ont gagné même $500, ils ont gagné peut-être même $2,000, mais cet argent-là s'est volatilisé comme ça et c'est parti. Pourquoi? Puisque on n'a pas une projection. Donc l'entrepreneuriat, c'est d'abord la projection dans la tête, dans le mental. Et après ça, on va chercher l'argent tout à Sacha. Une fois que j'ai l'argent, je pourrais l'affecter comment? Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, celui qui a un projet de pavé et qu'il n'a pas de moyens aujourd'hui, nous venons de donner peut-être des pistes. S'il ne trouve pas l'argent, il peut commencer à chercher ça par le fait de se faire engager quelque part ou soit accepter. Donc, puisque nous ne trouvons pas les moyens, pourquoi? Puisque quelquefois, nous voulons avoir des beaux bureaux. Mais l'argent ne se retrouve pas toujours dans les bureaux. Et si vous allez voir les gens d'ailleurs qui ont commencé, quand on vous explique comment les gens ont commencé leurs activités, vous allez être étonné. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé pas dans les bureaux. Parce que ceux qui sont dans les bureaux, généralement, ils vieillissent là-bas, ils attendent seulement la retraite. Mais les entrepreneurs, ce n'est pas comme ça. Donc, nous encourageons à ce que si vous avez une idée et que vous n'avez pas les moyens pour commencer votre activité, vous pouvez vous faire engager quelque part, travailler pour quelqu'un, pour que vous puissiez avoir les moyens. Peut-être après une année ou bien après deux ans, vous allez avoir les moyens pour commencer votre activité. Voilà.
Bon, le temps est déjà beaucoup passé, mais juste un petit ajout dans le cadre de la question. Vous pouvez aussi commencer à ramasser les intrants, donc le sachet, et être fournisseur des matières premières chez celui qui les fait déjà aujourd'hui. Et ça vous permettra de constituer un capital petit à petit.
Voilà, je pense que c'est... J'estime que vous avez répondu à la question suivante. Je suis un jeune jocolaire avec une restauration mensuelle de $25. Comment survivre et couvrir un besoin alimentaire sans gaspiller? Dans le même cadre, comment faire pour inventer quelque chose?
Bon. Je crois que ces réponses-là...
Oui, juste rappeler qu'il est question que chacun s'agisse selon ses moyens. En fait, il est possible de vivre avec $10, avec 20, avec 50, avec 100. Ajustez votre style de vie selon vos moyens. Il y a toujours des options qui nous sont données. Et je pense que c'est à chacun d'avoir la sagesse de savoir comment être équilibré avec les revenus qu'il gagne. Merci.
Merci. Nous continuons avec nos questions qui tendent vers la fin. Je veux savoir s'il y a des étudiants parmi nous. Vous pouvez lever les mains. Ah, ils sont là. Cette question a été posée par un étudiant. Par rapport à l'épargne, il nous a été dit que nous, qui sommes encore jeunes, nous devons garantir notre avenir par commencer à épargner. J'aimerais savoir comment ou que faut-il faire si je suis étudiante et que j'ai une petite activité qui m'aide à payer surtout le transport pour l'école. Je vais lancer une autre, mais j'ai peur de former les parents de ce que je vais lancer, de peur qu'ils me disent que je dois faire le choix entre les études ou l'entrepreneuriat. Alors que je vais être indépendant ou indépendante et poursuivre les études au même moment et engager quelqu'un pour m'aider pendant que je serai au cours. Quel conseil vous donnez à cette étudiante?
Je vais prendre 30 secondes et donner les autres à Papa Roger. Bon, moi, j'ai eu le privilège d'être entrepreneur en étant étudiant ou élève, mais la première chose, c'est de choisir une activité qui est compatible à la vie d'étudiant ou d'élève. Ça doit être une activité qui ne vous demande pas d'être permanent. Ça peut être une activité qui se réalise soit le soir ou le matin. Moi, quand j'ai commencé jeune 1, j'étais déjà dans le business des télécoms, mais c'était bien structuré et j'avais des gens qui travaillaient pour moi. Donc, je pouvais aller à la faculté. Et le matin, je quittais 6 heures pour aller lancer. 7h30, je quittais pour aller à la faculté. Et 17h, je rentrais encore pour clôturer. Jusqu'à 20h, et à 20h, j'ai rentré à la maison. Mais attention, j'étais l'étudiant le plus appliqué parce que ma gestion des temps était rigoureuse. Vous voulez combiner l'entrepreneuriat et les études, soyez alors très discipliné, très rigoureux. J'avais un principe. Quand on n'a pas une vacation d'après-midi, l'après-midi, j'ai resté à la faculté. Ou bien même quand le professeur envoie un message qui ne va pas venir, moi, c'est le temps que je capitalisais pour lire mes notes. Parce que je savais que je n'avais pas le temps à perdre comme les autres. Et il y a des activités auxquelles j'ai renoncé, des activités qui ne m'édifiaient pas. Donc, c'est important, quand vous voulez combiner, de choisir une activité qui est compatible et des deux, d'être les plus disciplinés. Si vos parents sont convaincus de ça, il n'y a pas besoin de les cacher. Il faut être honnête et les prouver que vous pouvez combiner et faire des bons résultats. À jeun 1, je fais une distinction. À la faculté, alors que j'ai travaillé déjà beaucoup plus qu'un étudiant parce que j'ouvrais mon activité à 6h30, je fermais à 20h. Et j'ai rentré à la maison très épuisé, mais il arrivait que je me réveillais des fois à 2h du matin pour revoir mes notes. Chaque fois qu'il y avait blocus, je prenais mon disposition. Donc, ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup d'exigence. Vous voulez aussi combiner le travail et l'entrepreneuriat? Soyez très discipliné. Organisez-vous bien. Il ne faut pas passer nuit blanche en train de faire les beignets et le matin, vous commencez à somnoler à votre poste de travail. Vous allez faire des dégâts mais vous allez être moins efficace. Ne soyez pas comme ce banquier-là, il est arrivé à la banque, il a commencé à sommeiller sur les claviers et il a fait un transfert de 5 millions. En sommeillant comme ça, il a tapé des chiffres et puis il a envoyé de l'argent. Donc, vous allez faire la prison. Donc, il ne faut pas vraiment avoir cette imprudence-là. Vous voulez combiner, soyez vraiment discipliné, prenez le temps de vous reposer et prenez le temps aussi de vous consacrer à votre activité entrepreneuriale et soyez efficace aussi à votre poste de travail.
Merci pour...
Excusez, j'ai pris beaucoup de temps, 30 secondes.
Voilà. Papa Roger, quel conseil faire à un entrepreneur qui a déjà envoyé plusieurs fois de business, mais ça n'avance pas à cause des agents?
Ça veut dire il entreprend et il laisse au business aux agents et maintenant, les choses n'avancent pas.
Merci beaucoup. Je crois que ce qu'on doit d'abord savoir, c'est que lorsqu'on lance une entreprise, quand on lance vraiment, on est au début des activités, ça nécessite la présence de celui qui a créé. Pourquoi? Puisque au début des activités, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de revenus. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à supporter ces sacrifices. Et du coup, si vous... Je peux juste te donner même quelques cas. Je vois qu'on avait lancé une activité à un moment donné. Et dans cette activité-là, on avait recruté 2 personnes. Et quand on les avait recrutées, malheureusement, un jour, il y a maintenant un client qui était venu. Les 2 personnes n'étaient pas là. Et on a appelé, on a dit, non, comment vous nous avez demandé de passer à votre entreprise alors qu'il n'y a personne? Alors, quand on les a demandé, bon, ils ont dit, non, nous n'avions pas de quoi manger, nous sommes allés nous débrouiller. Alors, à ce moment-là, les gens qui avaient initié l'activité, ils ont été obligés de revenir dans l'activité. Pourquoi? Puisque au début, les gens ne sont pas prêts à faire les sacrifices. Alors, les entreprises, telles que on dit que quel conseil on doit donner à celui qui a échoué à cause des agents, nous sommes en train de dire que au début, en tout cas, ça demande à ce que celui qui a commencé l'entreprise lui-même soit là. Il est intéressant qu'il suive lui-même les débuts de ça. Pourquoi? Puisque il peut faire même une année, même 2 ans, sans que l'activité ne soit rentable. Et alors? Aussi longtemps que l'activité n'est pas rentable, il ne sera pas en mesure de supporter les charges. Je venais de dire ceci, que les agents viennent pour avoir de quoi survivre. Alors que l'entreprise n'est pas capable de les rémunérer. Ça devient un paradoxe. Et avec ce paradoxe-là, la seule personne qui peut supporter cela, c'est les propriétaires de l'entreprise. Et d'ailleurs, pour votre information, quand on est même dans des sociétés, c'est lui qui a initié l'idée par rapport à tous les autres qui sont des associés, je ne sais pas, des actionnaires. Si ce n'est pas eux qui ont commencé, ils ont rencontré l'idée. Donc, on les a intéressés. Pour la plupart des fois, ils ne sont pas prêts aussi à supporter les coups-là. Seule la personne qui supporte ces coups-là, c'est le visionnaire. C'est la seule personne vraiment qui supporte les coûts de démarrage de la structure. Mais lorsque l'entreprise commence déjà à générer beaucoup d'argent, c'est à ce moment-là que tout le monde commence à envier l'entreprise. Si on voit par exemple les Vodacom, je ne sais pas, Airtel et tout, mais les gens qui ont commencé ça ne pensaient pas que c'était toujours difficile. Mais après un certain temps, ça a pris de l'envol et aujourd'hui, tout le monde souhaite aller travailler là-bas. Mais sachez qu'au début, ça n'a jamais été facile. Donc, nous conseillons à ce que, quand on commence une activité, il faut vraiment s'approprier cette activité-là pour que ça avance. Merci beaucoup.
Merci. Notre temps avance. Il nous reste 3 questions. Pendant que nous réfléchissons sur la gestion du temps, parce que nous devons suivre les communiqués, mais je vais lire les 3 questions et le pasteur va devoir nous orienter s'il faut répondre aux questions, mais je les lis pour que vous ayez une idée, voilà, pour que nous puissions gagner le temps. Voici la première de ces 3 dernières questions. À un moment, j'avais un agent mieux payant que celle que j'ai présentement. Mes dépenses étaient élevées, mais cet agent a été perturbé par le COVID
Et actuellement, j'ai un autre dont le revenu a baissé, mais j'ai tendance à avoir les mêmes dépenses. Comment puis-je faire pour m'adapter à la nouvelle gestion de mes dépenses? La deuxième question, que faire lorsque j'entreprends, mais mes frères et sœurs potentiels clients ne m'encouragent pas faute de confiance? Par exemple, j'ouvre un garage, mais ils hésitent d'apporter leur véhicule. Mes frères et sœurs, les amis de mon église, mais ils ne viennent pas vers moi. Que faire? Enfin, que faire face aux tracasseries de l'État? Voilà les trois questions. Pasteur, vous nous donnez quelle orientation? Faut-il répondre et puis, ou bien, on fait comment? Alors, donc, on réserve ces trois questions à demain matin, n'est-ce pas? Voilà, merci
beaucoup. Mais peut-être que tout le monde n'aura pas la même disponibilité. Mais si on peut juste dire à 30 secondes, pour la première question, je pense que lorsque vous commencez une nouvelle activité, il faut d'abord créer la confiance auprès de votre cercle restreint. Il y a ce qu'on appelle les portes ouvertes. Portes ouvertes, c'est quoi? Vous commencez un restaurant, vous ouvrez ce qu'on appelle portes ouvertes. Vous dites, j'en venais déguster gratuitement.
Ouais.
Et par cette voie-là, les gens vont découvrir. Et je pense que la confiance, c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit. Et je crois qu'on peut y arriver. Et je crois que c'était la question la plus complexe. Et les autres, comme Pasteur a dit, on pourra y revenir. Parce que celui qui a parlé des revenus qui ont baissé et comment ils s'équilibrent, on en a déjà parlé.
Oui.
Que nous devons faire un effort pour adapter nos dépenses aux revenus que nous avons.
D'accord.
Et ne pas dépenser ce que nous n'avons pas encore réussi en réalité. Merci.
Est-ce qu'on peut encourager les bien-aimés? Nous disons merci beaucoup, Papa Joël. Merci beaucoup, Papa Roger, pour toutes tes interventions. Et je crois que demain, on sera ensemble. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser.